foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Sophia Bentounès. Bonjour Sophie, je vais vous appeler par votre prénom parce que nous nous connaissons depuis déjà un certain temps, depuis que nous avons cheminé ensemble, mais je reviendrai sur cette question. Vous êtes présidente de l'association, de l'ONG AISA International, également de la Journée internationale pour vivre ensemble en paix. Vous êtes soufie et je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir à Radio Présence pour nous parler de votre parcours, de votre foi, de vos convictions profondes, de la paix qui vous habite.
Parfait. Alors avant tout, il faut simplement dire que je suis issue de deux traditions. Et dans ces deux traditions, j'ai eu la chance de vivre cette liberté à travers justement la voix de mon père, qui est la voix soufie alaouia, et l'esprit de Jésus qui animait ma mère dans sa profonde liberté, car ma mère était chrétienne.
Catholique.
Catholique, tout à fait.
Et nous nous sommes rencontrés la première fois en marchant avec cette association Compostelle Cordoue, parce que vous avez initié les cheminants de la paix, et de manière très, j'allais dire, interculturelle et culturelle, vous aviez prévu de faire un pèlerinage, une marche au Maroc sur la tombe de vos arrière-grands-parents. Nous reparlerons de votre papa qui a publié ce livre dont nous donnerons quelques extraits tout à l'heure sur la paix et la santé. Et cette marche, eh bien, c'est dans le cadre de la recherche des relations entre religions, cette confrérie soufie alaouia, fondée en 1909.
Tout à fait. Donc, fondée par mon arrière-arrière-grand-père, le Shir al-Alaoui. Et il faut savoir qu'au Maroc, la talaqa existe depuis cette date et qu'elle a simplement évolué dans un sens où maintenant elle appartient aussi dans sa vision de la jeunesse. Et je me suis engagée à créer les cheminants de la paix, c'est-à-dire pouvoir poursuivre le chemin tous ensemble avec toutes les traditions et même les personnes athées, mais à la recherche
d'honnêteté.
D'honnêteté, exactement, tout à fait, merci. Et donc là, nous avons poursuivi ensemble à deux reprises, en 2010 et en 2011. Nous avons cheminé sur les terres du Jbel Hammam, c'est-à-dire dans le Rif. Et nous avons poursuivi pendant une semaine cette marche en direction du grand saint Ibn Mashish, où nous, soufis, nous nous recueillons chaque année pour invoquer la présence et le respect de celui qui descend de notre lignée, Chaideli Derkaouia, et pour honorer ce lieu, mais à travers la présence de différentes confessions. Voilà. C'était mon intention première.
Mais oui,
je suis multiple et donc je voulais absolument qu'il y ait cette reconnaissance de tous.
Un deuxième moment où nous nous sommes rencontrés, c'est lorsque nous avons marché également en 2018, lorsque en Bretagne, nous avons fait la cérémonie des Sept Dormants. C'est un rassemblement islamo-chrétien. Les Sept Dormants, c'est à la fois une sourate du Coran de ces personnes sages qui ont été enfermées dans une grotte par un tyran, mais en même temps, Louis Massignon, que notre ami Habib Samrakandi avait évoqué ici il y a quelques mois, également d'autres personnes qui ont parlé de ce rassemblement islamo-chrétien, et ces gens de la caverne, eh bien, ils se sont réveillés après plusieurs siècles, dit la légende, et ils se sont dit, mais où êtes-vous? Pourquoi vous êtes-vous assoupis? Je parle trop, Sophie, pardon, mais je voudrais évoquer pour nos auditeurs de Radio Présence qui sont sur la région de l'Occitanie et également qui ont suivi peut-être pour certains les cours de François Jourdan, qui a plusieurs livres parce qu'il réfléchit sur les relations entre chrétiens et musulmans. Et il a une approche dans les chemins du dialogue à la fois de ces sept dormants au seuil du XXIe siècle, l'héritage bien sûr exigeant de la confrontation ou de la relation entre nos deux religions, et entre autres son livre que je n'aime pas, mais que je cite, « La Bible face au Coran ». Sophia, vous êtes dans une autre perception du Coran et de votre religion, et moi-même un peu aussi, mais je pense qu'il est bon de dire qu'on ne pense pas tous pareil.
Alors tout à fait, hein. Moi je suis bien placée pour vous dire que j'ai les deux traditions en moi et que je ne vis que sur le plan de la spiritualité de chaque tradition. Donc quand on a été invité par l'association Compostelle Cordoue à cette marche en tant que cheminant de la paix et de la voix Soufia Alaouia, il n'y avait que du désir justement d'échanger et de poursuivre ce pèlerinage. Et même si certains disent que ce n'est qu'une légende, les sept dormants, nous engageons, moi personnellement, à pouvoir unifier les pensées qui sont dans simplement cette connaissance de l'absolu, et revivifier à travers nos marches, à travers le dialogue, à travers justement ces échanges qui nous permettent de mieux apprendre des uns et des autres dans chacun dans sa tradition et de pouvoir les partager et dire que nous appartenons à l'unanimité, à cette fraternité humaine. Et comme diraient les soufis, l'humanité est une. Et donc, justement, en parlant de ce sujet-là, à ceux justement qui inventent ou qui veulent créer discorde entre chrétiens, musulmans, bouddhistes et autres, il faut leur dire, comme dirait le Coran dans la sourate 30 du verset 30, « Dirige ta face vers la religion en hanif. Telle est la nature, fitra, selon laquelle Dieu a créé les humains. » Donc il faut savoir que nous appartenons à cette fitra. Nous tous, nous sommes issus de cet état, ce berceau qui n'appartient à personne, qui est le tout, qui est cette énergie subtile, profonde. La fitra est un état d'être. Nous appartenons à l'un, à cette unicité, comme diraient les soufis. Dans le point, il y a tout. Il y a justement cette connaissance. Il y a cet état originel. Nous venons tous de la même source, et ça, il faut bien le comprendre.
Fils d'Adam.
Voilà, nous sommes.
D'autres disent,
nous sommes d'Adam
aussi,
et Adam
fils
et de
d'Abraham,
terre. Bien sûr.
Fils de la terre, et
fils
le
de la
lien
terre,
avec le
avant
cosmos
tout.
Nous rappelle au moment où il y a à la fois le coronavirus et à la fois le réchauffement climatique ou tout ce qui peut être négatif, que nous avons cette recherche de la paix, de la santé. Votre papa a écrit un livre qui s'appelle « La thérapie de l'âme, trouver une bonne santé ». Et hier et avant-hier, c'est-à-dire il y a quelques semaines déjà, nous étions dans ce monastère, Yasra, à côté de Lavor, pour évoquer la recherche de la santé. Nous avons évoqué avec le moine Yimpa cette santé du corps ou de l'âme ou de l'esprit, être un avec le cosmos tout entier. Et nous avons évoqué avec les différentes traditions religieuses comment on peut, à travers nos traditions spirituelles, rechercher une humanité qui n'est pas dans le déni des problèmes, qui n'est pas dans le refus de toute tension, mais j'aimais bien vous provoquer un petit peu en disant « Alors, religion et politique ?» parce que mon rôle de sociologue, c'est aussi d'aborder ces questions. Mais vous êtes algérienne, marocaine, vous vivez souvent en France. On ne va pas parler des Harkis ou du Sahara. Donc, il y a des problèmes, mais si nous voulons la paix, il faut la chercher. Et si nous voulons le conflit, c'est très facile de remonter aux guerres qui ont marqué et qui sont bien sûr à rappeler à certains moments, mais pour les dépasser. Nous vivons à cette période de trouble où il n'y a pas instrumentalisé des conflits passés. Et vous nous le rappelez à travers cette recherche du sens. Je vous avais aussi demandé de parler de votre maman parce que ça a été un moment dur.
Alors écoutez, je ne sais pas par quoi commencer. On va peut-être parler, si vous voulez, d'abord d'aller chercher cette unicité en nous-mêmes par la quête des sens et aller chercher justement le secret, on va dire, en chacun de nous. Cette âme a besoin de vibrer. Et cette vibration, chez certains, on appelle ça aller chercher Dieu en soi. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'aller au plus profond de nous-mêmes à travers notre vécu et aller à cette recherche de ce qu'il pourrait être justement la voix du cœur. Parce que nous, chez les soufis, nous parlons de la voix du cœur. La tradition est celle de cette guidance, si vous voulez, naturelle. En chacun de nous, nous avons cette possibilité de retrouver cette connaissance. Voilà, d'où l'importance, comme on a dit tout à l'heure, d'aller chercher cette fitra en nous qui nous permet de baigner dans cette immensité qui nous pousse à comprendre que nous sommes du tout et que le tout, c'est à travers même l'autre, c'est-à-dire nous partageons à travers l'individu qui n'est simplement juste une présence divine pour nous les soufis sur terre, c'est-à-dire aller dans cet échange. Maintenant, si nous devons parler de ma maman, j'ai eu la chance, il faut dire la vérité, d'accompagner ma mère il y a un an et demi dans son voyage éternel, comme on dit. Et cette chance, c'est d'avoir partagé auprès d'elle des moments exceptionnels. Et ça m'a fait découvrir que cette femme, finalement, avait en elle un ancrage exceptionnel et la force d'une femme. Et cette force-là, on a compris pourquoi elle était la compagne de mon père. Mon père est un maître soufi reconnu dans le monde, mais il ne faut pas oublier sa femme qui a pris, je pense, qui a été pilier pour sa vie et qui a incarné vraiment, vraiment dignement la place. Quand on dit derrière un homme, il y a toujours une grande femme, aujourd'hui je peux attester de cela. Et je rends hommage aujourd'hui à ma maman qui a été simplement d'un grand soutien à mon papa et qui est pour moi éternellement une femme exceptionnelle.
Et qui vous a beaucoup appris à travers sa souffrance et les derniers moments de sa vie.
Voilà, c'est une femme qui disait avant d'être malade, « Oh, j'ai peur de mourir ». Et je peux vous assurer que face à l'épreuve de la mort, elle a eu un comportement majestueux. C'est-à-dire, elle a acté très vite que c'était la fin. Il n'y avait pas d'issue pour elle. Et elle s'est transformée. Tout simplement, elle s'est transformée. Et elle est devenue, elle s'est remise à son rang. Cette femme qui était cachée s'est dévoilée en tout cas à moi, à nous, parce que mon père a pu, je pense, le constater. Et on a vu la grandeur, l'acceptation de la mort. On a vu que c'était une femme qui était dans le détachement total, une femme qui allait, qui savait, qui commençait son voyage et sa dignité, sa façon d'être. Comme diraient les soignants, dans notre vie, on souhaite un jour juste voir un malade comme votre maman. Et aujourd'hui, nous pouvons attester que votre mère est exceptionnelle. Et qu'elle nous, c'est incroyable, c'est elle qui nous donne le courage. Et nous, nous ne voulons pas l'abandonner. Et nous avons même contacté les médecins pour lui dire, s'il vous plaît, sauvez cette femme qui est d'exception. Donc c'est magnifique, c'est ma mère qui partait et qui a accompagné et qui a fait accepter aux soignants le départ. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux et c'est digne d'une grande femme. Et elle mérite vraiment, vraiment ce titre. Pourquoi même pas aller jusqu'à... Pour moi, elle a fait un enseignement de maître. Voilà.
Vous nous rappelez par cela le mystère de la souffrance, le mystère de la vie. Et j'aimerais que vous abordiez cette question qui est trop souvent galvaudée du terme de soumission, Inch'Allah. Ce n'est pas le défaitiste devant le mystère de la souffrance ou de l'échec. Avec nos amis bouddhistes, hier et avant-hier, nous avons réfléchi sur cette vacuité, sur le lâcher-prise, Nous avons réfléchi sur cette question du souffle qui est en nous et qui nous permet d'accepter la maladie. On rejoint le livre de votre papa sur la thérapie de l'âme, car nous avons un corps. Nous sommes les pieds sur terre, parfois la tête dans les étoiles, mais entre le corps et l'âme, il y a l'esprit qui cherche à comprendre et parfois qui ne peut pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout faire. Donc, l'acceptation qui n'est pas une démission.
C'est ça, tout à fait. Nous ne démissions pas. L'acceptation, c'est justement, c'est laisser se faire pénétrer par cette grandeur, par cet esprit, par cette énergie, certains diront. C'est-à-dire, on s'abandonne, c'est-à-dire, nous ne contrôlons plus par le mental. Nous ne sommes plus dans cette agitation du mental. Nous revenons dans ce calme profond intérieur, et quand on parle de paix intérieure, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions sur un océan justement qui est calme. Mais on sent que cet océan est animé par la paix, parce qu'il y a un équilibre, et que même s'il y a la puissance et la force dans les profondeurs, nous restons stables.
Et le philosophe, psychologue et théologien Jean-Yves Leloup, que nous espérons bientôt inviter ici, que certains de nos auditeurs connaissent parce qu'il a écrit toute une série d'ouvrages sur l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, l'évangile de Marie-Madeleine, et il est très proche des courants orthodoxes du Mont Athos et de courants bouddhistes, très proche des courants de l'islam, mais il nous a fait méditer le Notre Père, que ta volonté soit faite, F-A-I-T-E, que ta volonté soit faite, F-E, accent aigu, T-E. C'est une profondeur qui nous amène à aller plus loin que toutes les idoles que nous nous faisons de Dieu, d'Allah, de toutes les représentations que nous faisons de l'au-delà. Vous avez aussi relation à Dieu par la prière, par le silence et par le chant.
C'est
et
ça.
Vous nous avez apporté un cadeau qui est cette respiration que vous nous présentez et que vous nous commenterez après l'avoir entendue.
عظم قدر جاه محمد وأنا له فضل عليه عظيما وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Madame Sophia Bentounès, vous êtes présidente de l'association, l'ONG Aïssa International et de la Journée internationale pour vivre ensemble en paix. Et vous avez créé les Cheminants de la paix. Vous nous avez apporté cette belle musique et une respiration soufie.
Donc ça, ce que vous avez écouté aujourd'hui, c'est l'invocation d'un dhikr, c'est-à-dire le dhikr pour les Occidentaux, ça pourrait être assimilé au mantra. C'est l'invocation des noms divins qui amènent, c'est-à-dire à cette connaissance de son grand soi profond qui permet justement de se relier à cette énergie que l'on peut appeler l'énergie divine qui anime en vérité sa vraie nature et ce que nous sommes. Et nous passons dans cet état qui nous amène à invoquer le nom suprême divin qui se transforme en cet état originel qui est le souffle.
Le nom ou les 99 noms d'Allah, et c'est aussi les grains du chapelet que beaucoup de croyants sincères égrènent à des moments de tension ou des moments de joie. Ça nous ramène à la prière, à l'ouverture à l'autre, à l'ouverture au tout miséricordieux.
Parfait. Donc là, nous sommes vraiment dans ce que vous dites. Et ce chapelet, vous avez remarqué, il est commun. Il est commun aux musulmans, il est commun aux chrétiens, il est commun aux bouddhistes.
Les chrétiens, ils ont la croix et ils prient Marie. Mais
voilà,
ça, Marie,
mais
pour
voilà.
Les musulmans, c'est la sourate.
Nous ne pouvons pas être musulmans si nous ne croyons pas dans tous les prophètes révélés et irrévélés. Et ça, il faut le rappeler.
Mais vous êtes syncrétiste, là, vous mélangez tout.
Non. Je suis simplement dans ma foi profonde et j'admets et je vis cette foi chrétienne et musulmane et juive, et je n'ai aucun problème. Nous appartenons au tout et nous prions le même Dieu.
C'est ce que disait aussi Jean-Yves Leloup en demandant au Dalai Lama quelle est la meilleure religion. C'est un peu de la provocation. Et il lui a été répondu, c'est celle qui te permet d'être meilleur et
être
de vivre
meilleur
en paix avec les autres.
Ça, c'est un très beau, très, très, très belle réponse. Nous devons, en vérité, l'objectif est de s'élever, de progresser, d'aller dans des états de conscience qui nous permettent justement d'être accomplis. Donc si pour telle ou telle raison, telle personne a besoin d'une voie plutôt chrétienne, plutôt juive, plutôt musulmane, laissons les choses faire. Parfois, nous avons même nos athées qui sont très proches de l'environnement, qui sont par leurs actions de vrais croyants, finalement.
La responsabilité d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas seulement d'accepter l'héritage plus ou moins fort de ses parents, c'est aussi dans la transmission à ses enfants. C'est donc la question délicate de savoir jusqu'où enseigner, éduquer, alors que notre école, elle est souvent défaitiste. Et souvent, je demande à ceux qui acceptent le dialogue avec moi. Alors, la laïcité en France, c'est un grand débat, mais
en deux mots. Voilà.
Non,
c'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai été éduquée sans l'être, c'est-à-dire dans le subtil. Et ensuite, j'ai eu des parents qui m'ont dit « tu dois faire ton chemin par toi-même ». Donc, on ne m'a pas imposé la voie chrétienne, on ne m'a pas imposé la voie musulmane. Maintenant, j'ai eu des propres enfants et j'ai réagi de la même façon, c'est-à-dire nous appartenons à la terre et nous sommes dans cette unité, cette fraternité humaine. Nous ne pouvons pas nous obliger à ne pas être dans cette relation aux autres, parce que sinon nous ne pouvons pas avoir cette relation à soi-même.
Sophia, il faudra que vous reveniez parce qu'il nous reste 30 secondes pour parler de la Journée internationale de vivre en paix. Votre papa est allé jusqu'à l'ONU pour initier cette journée mondiale.
Tout à fait. Donc, mon papa est parti soutenu par tout Aïssa ONG et il a porté ce message. Il a fait acter par les Nations Unies à l'unanimité. 193 pays, le 8 décembre 2017, ont acté à l'unanimité la journée mondiale internationale du vivre ensemble
nous
en paix.
Nous en reparlerons à Radio Présence. Excusez-moi de vous couper, mais c'est la dictature du temps. En tout cas, merci pour votre sourire.
Merci
pour,
à vous.
Votre
merci
message
à vous et à toute
paix.
Équipe de propager des messages de paix, de tolérance et de fraternité. Merci.
À bientôt. Merci à Christophe pour l'enregistrement.
Merci.